bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale avec Lila Kadouroudali.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Oh, bonjour Nagui.
Albert Algou. Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Et notre invité Bertrand Bonello.
Bonjour.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Nagui.
On était en train de se demander, ça faisait combien de temps qu'on vous avait pas vu et suivi depuis Nocturama? Ça fait tant de temps que ça, vous avez dit ça.
Ça fait 3 ans, mais c'est long de faire des films. Hein.
C'est fou. En tout cas, ça vous a permis de... comment dirais-je, de câliner, de peaufiner, d'avancer sur ce film qui est une sorte, je ne savais pas ce à quoi j'allais m'attendre en allant le voir, et parce que le titre Zombie Child, alors déjà zombie sans E, je me suis dit pourquoi, histoire de zombies, on va avoir des morts vivants et certaines personnes vont sortir déchiqueter des tombes comme dans le clip de Michael Jackson, comme dans Thriller, hein,
puisque... c'est très Roberto Rodriguez,
ou dans, dans le récemment le The Dead Don't Die de Jarmusch,
qui était à Cannes aussi,
qui était à Cannes,
exact. Ouais. Et ben, on peut le dire, pas du tout. Ça ne fait pas plus peur que ça.
Ouais.
Et peut-être, ce qui est encore plus touchant, c'est que justement, ce ne sont pas des lambeaux de peau ou des bras qui tombent en termes d'effets spéciaux. Et il n'y a pas de cris à attendre particulièrement. C'est plus profond que ça. Commençons par le E. Pourquoi le E de zombie a disparu?
Bah, tout est un petit peu mélangé, hein. C'est-à-dire, alors, le E, enfin, il y a cette figure du zombie, donc, dont vous parliez, qui est celle qu'on connaît, hein,
qui film est. Le film de genre.
Le film de genre, celui qui n'a plus de place en enfer, qui revient sur terre, sur terre, etc. Moi, mon idée, c'était de prendre cette figure, de la ramener à son origine, de là où elle vient, donc, c'est-à-dire Haïti, etc.
Et d'aller plutôt vers les croyances que vers le sensationnel.
Exactement. Vers les croyances, vers l'origine, et à travers ce mouvement de faire aussi une évocation de l'esclavage, ouais. Soyons clairs. Et dans l'origine, en effet, le zombie haïtien n'a pas de E. Donc je suis revenu aussi à l'orthographe originale.
À l'étymologie.
Oui.
Et ce n'est pas un mort qui est... Enfin, c'est pas le même concept que zombie américain, non. C'est-à-dire qu'il est... Il n'est pas... Il revient pas pour se venger, il n'est pas là dans un but comme ça.
Ah, le zombie américain, il est mort. Ça,
ouais,
c'est facile.
Il est mort. Hein. Alors que le zombie haïtien, il est
mien,
pas...
Il est, on le fait passer pour mort.
Forme.
On le fait passer pour mort.
Ouais, voilà.
On l'enterre, on le déterre et après on le jette au travail comme un corps sans conscience.
Ouais.
Mais il est plus extrait du monde que mort.
Que mort, ouais.
C'est-à-dire, ce sont des personnes qui étaient entre la vie et la mort que l'on enterre assez rapidement et puis une espèce de secte ou de corporation viennent les déterrer, les soigner pour les employer
et
les exploiter.
Exactement.
Dans les plantations de canne à sucre.
C'est ça, c'est ça.
Arrête, tu m'en fais peur.
Pardon. Donc ça c'est la musique, hein, de zombies, musique que vous avez vous-même. Que vous avez vous-même.
Le mec a un chat dans la gorge.
C'est la première fois que je vois faire le zombie.
Que vous avez...
Non, je l'ai vu en soirée.
Ouais,
hein.
Moi aussi, c'est ça. Et que vous avez composé,
oui,
puisque vous êtes
oui.
Musicien, on va reparler. D'ailleurs, est-ce que le métier de musicien aide au rythme de l'écriture et de la réalisation? À la
en
rigueur.
En tout cas, moi, je passe par ça. Enfin, c'est vrai que je passe par la musicalité des choses plus que par le sens. Et c'est faire moi-même la musique des films. Alors, je la fais très tôt au moment du scénario. M'aide beaucoup aussi à visualiser les choses.
Le nouveau Bonello, c'est devenu un nom commun maintenant. Vous savez, c'est le nouveau. Ah, c'est une marque. Hein. Le nouveau Bonello est là. Il s'appelle Zombie Child avec Louise Labeck, Vilslanda Louima, Adilé David, Ninon François, Mathilde Rioux. On l'a compris, c'est un choix et on va en reparler avec vous. Vous dites la seule vedette du film est un professeur au Collège de France qui.
Ah, c'est le plus connu. Hein. C'est le plus connu de tout le film. Hein.
Qui donne un cours magistral et qui est pas naïf non plus autour de son et du monde de l'histoire qu'il raconte.
Ah, il est incisif en tout cas. Mmh. Il est magistral en effet et incisif.
C'est Patrick Boucheron,
ouais, oui. Qui a la seule scène qui n'est pas écrite. J'ai vraiment donné la parole et il l'a prise.
Oh bah lui, il faut surtout pas lui écrire ses cours.
Ah non,
ça sera un crime. Ça. Là, ça sera un crime. Zombie Child, donc c'est au cinéma ce mercredi. Mais d'abord, parlons et jouons avec la vie de Bertrand Bonello. En 2011, Bertrand Bonello réalise L'Apollonide, souvenir de maison close. À quoi fait référence le nom d'Apollonide dans sa propre vie?
Un bar?
Un bateau?
Non.
La Polonide?
Non.
La Polonide?
Non.
C'est un bouquin, un texte qu'il avait écrit, un poème, dans sa propre vie.
C'est quelque chose.
Le nom de son chat.
Qui résonne dans son enfance.
Le nom de son animal imaginaire.
De
sa.
De quoi?
Sa nounou.
Non.
Le nom de son chien.
C'est super malsain. Le nom de la nounou pour une maison close? Non, non.
De la villa.
Et alors?
Alors,
la maison.
La maison où il a passé les vacances?
Ouais, allez.
Un peu plus que les vacances.
Ouais, un peu plus que les vacances. C'est carrément votre maison de famille.
Oui, exactement.
La maison de vos parents.
Oui. Et j'avais demandé à ma mère quand je
c'est cherchais... pas très sain non plus d'appeler une maison close du nom de la maison de ses parents.
J'ai demandé à ma mère. J'ai dit voilà, je fais un film sur la maison close. Est-ce que ça t'embête si je l'appelle la Polonide? Elle me dit pas du tout. Ça a tellement baisé ici que voilà.
Très bien. Et cool, maman. J'adore l'idée. Et pourquoi pourquoi être allé vers ce nom-là? Parce que il résonnait. Il était sexué.
Au-delà des souvenirs personnels, je trouvais qu'il offrait beaucoup d'images, rien que par son nom.
Il y a beaucoup de possibles, en effet.
En 93, Bertrand Bonello a réalisé un premier court-métrage consacré au Polonais Tadeusz Kantor. Et un jour, il a décidé de faire quoi?
Il est parti en Pologne pour tourner ce court-métrage et il y a croisé Spielberg.
Non.
Mais c'est vrai.
Oui, c'est oui, totalement c'est vrai. Vrai ça.
Mais par rapport au court-métrage, non.
De composer.
De se le payer lui-même?
Non.
Vous avez été tourné une troupe de comédiens. C'est la troupe de comédiens de ce metteur en scène quelques temps après sa disparition.
Vous l'avez toujours ce court-métrage, mais il a.
Vous l'avez décidé. Il l'a jeté.
Il l'a toujours, mais il a décidé qu'un jour il en ferait quoi?
Un long.
Une comédie musicale.
Qui projetterait ce film quelque part en particulier, qu'il en ferait un bouquin, un film,
un dessin animé,
non.
L'inverse
d'en faire quelque chose.
Mais il en ferait rien.
Donc
il le mettrait aux
Mais non, le truc le plus dingue qu'on puisse faire d'une œuvre.
On l'a détruit. Mais je l'ai dit.
J'ai dit déjà tout à l'heure.
Moi aussi, j'ai dit, il a déchiqueté.
Ah bah, c'est pas brûlé, c'est pas pareil.
Enfin, c'est pas pareil.
Le coup, ça n'a rien à voir.
Il y a une espèce d'auto-da-fé.
Bertrand.
Il y a la décision que vous avez prise. Bertrand, défendez-moi.
Non, c'est-à-dire que j'ai réussi à retrouver toutes les copies qui traînaient à droite, à gauche.
Pourquoi vous voulez le brûler?
Et je sais pas, on n'assume pas toujours tout. Voilà.
Mais si moi je
reste. Non, il me reste une copie 35 mm dans ma cave, mais j'ai une porte blindée.
Donc personne n'y a accès.
Non.
Non, mais vous voulez le brûler parce que vous avez honte?
Je sais pas, c'était un film. Ça a été un peu mon école, quelque part. Et pour moi, j'ai un peu démarré plus tard. Quoi.
Alors pourquoi avez-vous dit un jour je le brûlerai?
Mais comment vous savez ça?
Et pourquoi? Dans deux secondes. Et pourquoi ne pas avoir décidé de le faire tout de suite? Pourquoi vous attendez avant de le brûler si c'est si moche que ça?
C'est pourquoi j'ai attendu, parce que je voulais être sûr de pouvoir faire mieux un jour. Puis quand je me suis dit tiens là c'est un peu mieux, celui-là on va le cacher.
Oui, mais pourquoi vous le brûlez pas cet après-midi?
Alors là vous commencez à me donner l'envie de le faire.
Non. Et puis vous avez pas peur de le regretter?
Non. Il y a trop de choses, trop d'images.
C'est comme les photos gamins, ados, où on se trouve moche, c'est quand même bien de les garder, parce que...
Un jour, on finit par se trouver joli.
Moi, je me suis toujours trouvé beau.
Ouais, ça m'étonne pas.
Bonjour.
Mais, surtout, on t'a trouvé en retard. Mais il faut pas tout jeter comme ça, faut pas tout
brûler. Non, mais je pense que s'il reste une copie 35 dans ma cave, c'est que je franchis
inconsciemment.
Pas. Ben, voilà, je franchis pas le pas.
On parle de la rencontre avec Spielberg.
Ben ouais, c'est que vous retrouvez quand même sur un plateau de tournage où vous croisez Spielberg?
Ah, c'était assez particulier, c'était vrai. Alors, c'était juste après la chute du mur, quelque part, donc il n'y avait pas encore... Enfin, tout le monde travaillait un peu au même endroit. Donc moi, je tournais mon petit court-métrage et lui, il était en préparation de La Liste de Schindler. Mais c'est vrai qu'il n'y avait globalement qu'une seule cantine.
Ouais.
Et donc, comme je parle plutôt bien anglais, il était content de parler avec moi et on parlait comme ça. Et moi, comme c'était mon premier film... et que je connaissais rien du tout au cinéma, en fait, je trouvais ça hyper normal. Maintenant, je fais du cinéma, je prends un café avec Spielberg.
Parce qu'il vous a dit même qu'il y avait un autre grand réalisateur qui débarquait pour tourner.
Exactement, il m'a dit, j'ai vu Kubrick dans le coin, il doit être en train de reprendre son Napoléon. Folie. Et moi, je trouvais ça extrêmement normal.
Tout va bien.
J'ai été très déçu après par la suite que ce soit pas toujours comme ça.
La vie est décevante.
Ouais. Autre question concernant Bertrand Bonello, avant de tourner, qu'envoie-t-il à ses acteurs?
De l'argent,
le scénario.
Non, les musiques. La musique qu'il a composée en amont, et il leur fait visionner aussi des films parfois.
Pas le scénar?
Alors, Tu veux dire la musique du film dans lequel
non,
ils vont tourner?
Non, des musiques, sa playlist, une playlist pour les mettre en condition.
Oh là, ok, je préfère ça. Pas la musique du film dans lequel ils vont tourner, mais des musiques qui peuvent influencer leur personnage ou le film.
Ou le mood, en fait. C'est-à-dire, c'est pas à vous que je veux dire ça, mais c'est vrai que la musique vaut mille mots parfois et que je fais une espèce de...
Oui,
de...
mais ça sera pas la même par rôle.
Ah bah non, je fais une playlist par personnage.
Personnalisant,
mais je travaille quand même. Je fais une playlist par personnage et je demande aux comédiens ou aux comédiennes pendant un mois avant de l'écouter une fois par jour.
Même pour la figure.
Oh, faut pas pousser non plus. Hein. Ça commence à faire beaucoup là.
Donc d'être pour comme la bible du personnage, s'écoute en musique.
C'est ce qui traverse comme émotion, etc. Et par exemple, quand on va pour tourner une scène, je dis tiens, tu te souviens tel morceau, réécoute-le avant de tourner. Et c'est vrai que ça fonctionne. C'est mieux que de faire beaucoup de psychologie souvent.
Que fait Bertrand Bonello en même temps que l'écriture de ses films?
Bah pareil, il écoute de la musique aussi.
Non,
il joue la musique beaucoup.
Ouais. Ouais, il joue. C'est plus que de la jouer, il la compose en l'occurrence. Donc là, on n'est pas dans le moment le plus détendu du film.
C'est vrai.
Non, mélodique, si, on peut trouver, il y a une résonance.
GarageBand.
Là, on est
là c'est la joie.
Mais on est dans les vapes, quoi. On est dans un.
Pensionnat.
Quelle est votre influence musicale là, d'ailleurs?
À ce moment-là, en fait, je fonctionne vraiment par texture. Donc, je me suis dit tiens, il y a toute une partie du film qui est dans un pensionnat de jeunes filles, et je me suis dit ce serait joli de travailler avec des voix de jeunes filles aussi.
Ouais. C'est un entre-deux mondes en plus, le pensionnat, parce qu'on n'est pas vraiment.
Ça, c'est par exemple une scène un peu d'émoi entre deux filles dans un vestiaire.
Ouais,
c'est assez. Il y a quelque chose un peu angélique.
Ouais.
Alors, ce qui est fou, c'est que il y a quelques scènes qui faisaient penser à Carrie par moment.
Ah bah quand on met des jeunes filles un peu dénudées dans un vestiaire, oui, on pense à Carrie. Oui.
Ouais, et puis quand il y a une espèce de tension, d'inquiétude aussi environnante. Et puis la musique, je pensais au Floyd. Moi, je sais pas pourquoi. J'avais.
Oui. Bah après, côté synthé. C'est des groupes qui m'ont tellement marqué. Enfin.
Oui, influencé.
Le Pink Floyd, à une certaine période, oui. Oui.
La musique, on l'a dit, vous l'avez composée. Par moments, vous avez aussi choisi des morceaux déjà existants.
When you walk through a storm,
Jerry and Pacemaker, mais c'est
magnifique.
Où vous êtes allé chercher ça? C'est pas possible. C'est pas de votre âge.
D'abord, c'est l'hymne de Liverpool.
Hein. Ouais. You never walk alone.
You never walk alone. Quand il y a tout le stade qui chante ça, c'est frisson quand même. Hein.
Sauf qu'ils le chantent a cappella et c'est presque plus du tout dans ce tempo. Quoi,
alors maintenant. Ils mettent ça derrière, mais après le stade passe au-dessus. Ouais.
Ah, ils envoient le disque.
Ils envoient
le disque. Je savais même pas.
Ouais, ouais.
Pourtant, je l'ai entendu un nombre de fois incalculable, mais j'entends pas la musique.
Parce qu'ils sont 65 000, enfin, donc ça passe.
Alors, on va préciser à ceux qui sont pas forcément amoureux du foot, tu ne marcheras jamais seul. Cette chanson, les supporters, le stade entier chante cette chanson au club,
à Liverpool,
aux joueurs, dans le stade. Quel que soit le résultat du match.
Oui, ils ne lâchent jamais leurs joueurs,
y compris quand ils perdent 4-0.
Surtout quand ils perdent, surtout quand ça va mal.
C'est ça qui
you
est fort.
Never walk alone, ouais.
Alors pourquoi l'avoir mise?
Bah parce que j'essaie toujours quand même de sur la musique du générique de fin, etc., qui est quand même quelque chose qui soit en lien avec le film. Et c'est vrai que mon zombie, c'est aussi quelqu'un qui marche seul pendant des années dans les terres d'Haïti, la tête baissée, et que voilà, c'est pour le dire, ok, tu es dans la tempête, mais tu ne marches pas seul, il y a une lumière qui va arriver.
Alors il y a deux lectures. Il y a le fait que l'on soit toujours accompagné, suivi par ses ancêtres, qui a toujours cette étoile qui nous accompagne toute notre vie. Et puis il y a le côté hanté, justement. Il y a le côté possédé.
Après, le film, il est traversé par toute forme de possession. Hein. C'est-à-dire qu'en Haïti, en effet, il y a du vaudou, et le principe aussi du vaudou, c'est d'accueillir des esprits et donc de se faire posséder. Enfin, l'esprit possède. Toute la partie au pensionnat, c'est le chagrin amoureux d'une jeune fille. Et elle le dit elle-même, j'en suis possédée, je voudrais être dépossédée de cet amour. Et après, sur le sous-texte sur l'esclavage, enfin, c'est quoi aussi l'esclavage? C'est posséder le corps d'un autre. Hein. Donc la possession, elle est un peu partout dans le film.
À quel moment, donc, vous est venue l'idée de Zombie Child?
Alors moi, je m'étais intéressé à Haïti il y a quand même une quinzaine d'années et j'avais découvert l'existence de ces zombies et ça m'avait d'abord hyper surpris, puis questionné et puis ému. J'avais juste noté comme ça, j'ai plein de carnets, je suis un peu graphomane, j'avais marqué zombie Haïti. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai cherché un film à faire de manière assez un peu différente, un peu ailleurs, un peu rapide. Et rien qu'en voyant ces deux mots, tout m'est remonté. Et puis j'ai eu la première image du film qui était cet homme qui marche dans les terres entre la vie et la mort, entre le jour et la nuit.
Ouais, enfin la première image, elle est celle de... Il n'y a pas de visage d'ailleurs. On est avec des mains qui sont en train de
dépecer,
de concocter, de préparer
un poisson.
Alors déjà, c'est un poisson qui est déchiqueté, qui est préparé, mais d'une manière extrêmement chirurgicale, minutieuse. Quelqu'un sait ce qu'il fait avec ses gestes, un mélange de poudre pour fabriquer un poison que l'on va poser dans des semelles.
Voilà, parce qu'il faut que ça passe par les pores de la peau. Donc en fait, le début du film, en effet, quelque part, je donne la recette.
Parce que vous avez fait une enquête, tout ça, c'est vrai?
Ah mais tout ça est en effet vrai. En fait, l'histoire de mon zombie, elle est reconnue.
L'histoire de mon zombie.
Clervus Narcisse. Donc en fait, il revient en 1980 et là... Étant mort en 62. Il retrouve... Alors moi, je lui ai fait retrouver sa femme parce que je trouvais ça plus beau, mais en fait, il retrouve sa sœur. Et là, les Nord-Américains, notamment les Canadiens, s'intéressent à son cas parce qu'ils se disent mais comment ça fonctionne? Comment ça marche? Il faut qu'on trouve le secret de cette poudre de zombie. Ils envoient un anthropologue qui s'appelle Wade Davis, qui écrit un livre, The Serpent and the Rainbow, et dans lequel, en effet, il dit exactement de quoi est faite cette poudre et comment on l'a fait. Et ce livre est adapté 2-3 ans plus tard par Wes Craven. Ça s'appelle en français L'Emprise des Ténèbres.
Ce que vous avez voulu montrer là-dedans aussi, parce qu'il y a tout un volet consacré à l'éducation de ces enfants, donc pas de vedette dans le film au sens cinématographique du terme, pas de star, pas de comédien reconnu et reconnaissable. Le choix est de se concentrer sur ces jeunes filles dans ce pensionnat particulier, maison d'éducation.
Je ne savais pas
que ça existait.
Si, il y en a plusieurs en France.
Et en fait, de la sortie du film, je me suis dit, j'ai googlisé en disant, mais puisque j'ai tapé enfant de la Légion d'honneur, et alors toutes les photos sont arrivées. Vous avez tourné sur le véritable lieu de la maison d'éducation.
Oui, c'est à Saint-Denis, c'est vraiment collé à la basilique.
Au nord de Paris.
Et tout ce que j'y montre est vrai. Moi, j'ai rien inventé, c'est-à-dire et les décors et les uniformes,
les révérences,
la révérence qui est quand même extrêmement
en arrière,
c'est extrêmement particulière. Ouais. Toute cette scène avec la surintendante.
Donc on s'incline pas la tête en avant, mais la tête en arrière, comme ça.
Voilà.
On se courbe en arrière.
Ouais, non, tout est assez juste sur le fonctionnement de ce pensionnat qui est assez passionnant.
Mais alors, autant je comprends que vous ayez envie de montrer l'histoire de ces zombies d'Haïti, de dénoncer l'esclavagisme, la manipulation, la possession, et finalement de croire à votre manière à toute cette tradition, qu'elle soit orale ou qu'elle soit empoisonnée. Autant l'idée de ces jeunes filles dans le pensionnat est particulièrement celui-là. Est lié à la véritable histoire de cet Haïtien?
Non. Alors, il y a tout ce que, enfin, sur Clervus, c'est à peu près juste ce que je raconte. Et après, moi, je me suis quand même posé une question un peu fondamentale. C'est comment je vais raconter mon histoire? De quel endroit je raconte mon histoire? C'est vrai que moi, français, blanc, arrivant en Haïti, et pour faire un film sur le vaudou et le zombie, il y a un moment, ça va pas. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, je me suis dit, il faut que je raconte de mon endroit, c'est-à-dire de la France. Donc à ce personnage de Clervus, je lui ai inventé en effet une petite fille dont les parents seraient morts dans le terrible tremblement de terre de 2010 et qui aurait rejoint la France. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal de recevoir cette histoire avec des adolescentes, de recevoir à ce niveau-là. Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'il existe un pensionnat encore aujourd'hui de jeunes filles? Est-ce que ça existe? Et j'ai fait comme vous, j'ai googlisé.
Vous êtes allé jusqu'à Légion d'honneur, c'est-à-dire que c'est...
En fait, quand j'ai mis pensionnat à jeunes filles aujourd'hui, c'est quasiment le premier qui arrive. Et je ne connaissais pas l'existence de ce lieu, qui est quand même incroyable, qui est un petit peu hors du temps. Et après, j'ai vu que ce pensionnat avait été créé par Napoléon. Donc, tout d'un coup, il y avait des sens qui se mettaient en place, c'est-à-dire le rapport entre Napoléon et Haïti, et l'esclavage, etc. Donc, je me dis, ce sera mon décor principal, et le film sera raconté de cet endroit.
Et c'est entre deux mondes, comme pour les zombies, en fait. Il y a
une sorte de
statue comme ça, flottant, hors du temps, alors qu'il y a des annonces avec des temporalités. vous précisez bien dans le film les temporalités, les lieux où on se trouve, mais on a l'impression que ce pensionnaire-là... Ce pensionnat-là N'existe quasiment pas tellement.
Oui,
il
on a l'impression que le temps s'est arrêté. Ouais. Enfin, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire le plan où, d'en haut de la basilique où on voit le Stade de France. Ouais. Enfin, c'est pour dire aux spectateurs, mais en effet, ouais, vous savez, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, ouais, c'est à Saint-Denis. Enfin, c'est...
Et ça existe encore. Et au sein même de ce pensionnat, un clan
sororité littéraire.
Voilà, où elles s'élisent entre elles et elles acceptent ou pas l'arrivée d'une nouvelle.
Voilà, exactement, sororité littéraire dans lequel elles étudient les textes de Damso, par exemple.
Ouais, c'est ça qui est drôle, ouais, ce décalage.
Enculé, fils de putain, aucun soutien, je me souviens. Et toi, la petite salope, tu me parles de des loups boutons.
Prends son père.
Ma grand-mère te dit votre père, ça ne m'étonne pas car elle ne respecte
2019 Votre fille vous a beaucoup aidé à déjà la programmation de Damso et au verbatim de ces jeunes demoiselles.
Oui, parce que moi j'étais très attaché à être un petit peu juste sur le regard de ces jeunes filles, enfin pas
adolescentes,
et,
ouais.
Et notamment donc leur musique et leur musicalité, leur langage, etc. Donc moi j'avais écrit un premier jet de texte, elle est un petit peu repassée derrière en me disant que j'étais quand même un petit peu ringard à cet endroit-là. Elle dit là il faut dire ça, là il faut dire ça. Je savais pas ce que ça voulait dire crari, bon maintenant je sais. Voilà, elle
stalker.
M'a un petit peu stocké. Bon, ça va, comme
stalker,
je connaissais. Mais moi, à un moment, j'avais mis Rihanna de Monoprix.
Crari,
genre. Voilà.
Non, mais il faut décoder.
Une phrase avec
ça. Je sais pas, au lieu de dire crari, genre. Genre, ce film, il est bien, quoi. Crari, ce film, il est bien. Voilà. Et moi, j'avais mis à un moment, c'est Rihanna version Monoprix. Ma fille m'a dit non, pas du tout. Nous, on adore Monoprix. Il faut mettre version Carrefour.
Carrefour.
Ouais. Mais quelle erreur, enfin.
Non, mais c'est important. C'est important.
Pour être réaliste, bien sûr.
Voilà. Et en effet, quand je cherchais un petit peu qu'est-ce qu'elle pourrait écouter, ces jeunes filles, j'ai regardé sa playlist Deezer et le dernier morceau qu'elle avait écouté, c'était Je respecte R de Damso. J'étais un petit peu, je dis bon, voilà.
Alors, je respecte ça. R, le R étant pour rien.
Oui.
Rien. Voilà.
Et bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Et en fait, au fur et à mesure de l'écoute de ce morceau, je trouve ça quand même assez impressionnant ce qu'il écrit.
Ce qui est impressionnant et très bien retranscrit dans votre film aussi, c'est la manière dont des jeunes filles qui peuvent passer comme ça, très bon chic, bon genre, avec leur uniforme, le poids de la Légion d'honneur, que si ce n'est pas elles qui l'ont eu, en tout cas leur famille, fait qu'elles se retrouvent réunies là, ont ce texte pratiquement par cœur, avec presque les petits gestes de chorégraphie qui viennent appuyer les chansons, comme font toutes les ados. Mmh. C'est-à-dire que là,
on peut leur mettre cette scène. On peut leur mettre l'uniforme. Enfin, ça reste aussi des jeunes filles aujourd'hui. Voilà, il fallait
qui vivent avec leur temps.
Et puis il y a le jour, et puis il y a la nuit. Et puis quand j'ai fait lire à la surintendante le scénario de la Légion d'honneur, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit mais est-ce que vous avez une souris à l'intérieur du truc ? Parce que c'est exactement comme ça. Enfin, c'est voilà.
Alors cette histoire avec le recul, en une phrase, vous diriez quoi, ce zombie child? Parce que oui, il y a l'une des descendantes de ce zombie haïtien, qui est donc sa petite fille,
ouais,
qui se retrouve dans ce pensionnat. Mais il y a ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la possession qui est aussi bien celle qui est déçue par son histoire d'amour qui finalement va être brisée.
Et il y a beaucoup de portes d'entrée en fait dans le film. Il y a deux récits assez simples, mais quand on les mélange, et ben voilà, il y a beaucoup de portes d'entrée.
La vie, c'est bien compliqué quand deux choses simples se mélangent.
Exactement, exactement. Non, mais j'ai parlé tout à l'heure du mouvement de prendre un zombie pour le ramener à son origine et parler de l'esclavage. Après, il y a aussi une manière un peu plus générale aussi, et là, ça fonctionne pour Haïti et pour la France. C'est aussi un film sur la transmission de la liberté et puis sur notre héritage culturel. Qu'est-ce qu'on fait de notre histoire ?
Et bien, joue bien ces filles que vous avez cassées. Je ne sais pas où vous êtes allé les chercher. On va en parler tout à l'heure. Louise Labeck, Vislanda Louis-Matt, Adilé David, Ninon François et Mathilde Rioux. Zombie Child, le nouveau Bonello, arrive ce mercredi et Maréchal Ganache, ça va être un succès.
Affirmatif, Nagui. L'atmosphère prenante et envoûtante de Zombie Child que vous avez.
Zombie Child.
En français, je prends. Zombie Child, ou Child, c'est pour vous faire plaisir. Merci. Que vous avez admirablement décrite, mon cher Nagui, quitte à faire les voix même, va fortement contribuer à ce succès. Atmosphère qui confronte occultisme et rationalisme, car si cette histoire commence en Haïti avec des pratiques vaudou et se poursuit en France, à Saint-Denis, les frontières entre irrationnel et rationnel vont s'estompant, aussi bien pour les protagonistes de cette étrange aventure que pour les spectateurs. Et je peux vous dire, cher monsieur Bonello, que depuis le film Vaudou, I Walk with a Zombie, de l'immense Jacques Tourneur, 1943, je n'avais pas vu de film de zombie aussi ensorcelant que le vôtre. Quand il faut parler Cinoche sur France Inter, Delmas Laurent, Odessino Guillemette, Bétan Eva, Frappeur Augustin...
Laissez tranquille.
Ouais, tous réunis, ils peuvent vraiment pas faire le poids face à Ganache. Je les prends tous ensemble, quand ils volent et sans les mains. Si ce film me plaît, c'est aussi parce qu'il se déroule en partie dans une maison d'éducation de la Légion d'honneur, où les élèves portent toutes l'uniforme avec une ceinture en baudrier et un béret pour les sorties, et où l'instruction dispensée fait d'elles des vraies Françaises qui en ont dans le froc. À ce sujet, je vous félicite encore, monsieur Bonello, d'avoir évoqué, via la surintendante, le ravivage de la flamme des soldats inconnus auxquels les jeunes filles sont conviées. Mais je voudrais revenir au début du film. Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les morts pour être renvoyé de force dans l'enfer des plantations de canne à sucre. Figurez-vous, Nagui, car oui. Je crois ne l'avoir jamais raconté ici, qu'il s'agit presque mot pour mot d'une situation identique à celle que j'ai vécue jadis. Ce n'était pas en 1962, là, en 62, j'étais en Algérie avec Jean-Marie et Gégène. Non, c'était en 54, au Tonkin. Après la prise du fortin de Outamitetong, les Viettes, qui me croyaient blessé à mort, m'enterrèrent vivant. J'aurais péri étouffé, de la terre jaune plein la bouche, si je n'avais pas été réveillé par les morsures que m'infligea une taupe géante, qui confondit mon fondement avec sa galerie. Un réveil... Ne respectez ma blessure. Un réveil que je continue à payer très cher. Ouais. Hélas, puisque depuis, je ne peux pas rester assis plus de 3 minutes.
Bonne nouvelle.
Aussi vais-je vous quitter. Bonne émission.
Merci beaucoup. La bande originale. Zombie Child, une manière aussi de raconter une vie d'adolescente, justement, puisque vous en avez une à domicile. C'est aussi une manière de voir de l'importance des histoires d'amour, de l'importance d'être préemptées les unes avec les autres, de l'importance de céder ou pas à des traditions ou d'être tenté par des expériences, que ce soit celle de zombies, on peut aussi imaginer la drogue, ou de goûter et de dire, mais il y a... à la fois le danger, à la fois la tentation du danger et de l'inconnu, et commettre ou pas l'irréparable.
Ah oui, moi j'ai adoré passer tout ce temps avec ces jeunes filles, les regarder, essayer de saisir un peu. Alors c'est un âge qui est assez extraordinaire sur plein de trucs. Hein. Je sais que les ados, ils ont mauvaise réputation, mais cette espèce de mélange d'immenses certitudes sur des choses qui sont totalement floues. Enfin, c'est assez passionnant. C'est l'ouverture au monde aussi. Hein. C'est la réception des choses. Après, ce qui était un peu compliqué pour moi, c'était vraiment de trouver ma place. Vraiment être à leur hauteur, pas trop proche, parce que si je suis au milieu, c'est touchant.
D'être très pudique tout en étant extrêmement présent.
Exactement.
Et dans l'observation.
Non, mais c'est exactement ça, c'est être vraiment là, à leur hauteur, tout en respectant aussi quelque chose qui n'est pas moi. Quoi.
Et cette tentation mystique aussi, ou en tout cas cette envie d'aller chercher des réponses à des problématiques hyper contemporaines et qui sont contemporaines à tous les adolescents, de se demander s'il n'y a pas des clés, des choses un peu irrationnelles.
On se souvient,
quoi.
Quelque part, de nos
des incantations qu'on faisait
à cet âge-là. Enfin, c'est le monde s'arrête.
Ouais.
Et en effet, on a envie d'en appeler à la dépossession. Enfin, et retrouver comme ça, quelque part, ce sentiment.
Le nouveau Bonello s'appelle Zombie Child. Voici Jérémy Crédville. Yalla.
Bonjour. Alors la semaine dernière, j'étais en vacances avec deux couples d'amis et des merde, comment on appelle ça déjà ?
Des enfants.
Ouais, voilà, des connards qui se lèvent à 6h30 même en vacances, des enfants. Alors, vacances avec des enfants, oxymore hein, oxymore, ça fait référence à deux termes qui s'opposent, genre obscure clarté ou repas vegan. En fait, partir en vacances avec des enfants, c'est comme aller à Budapest avec ta femme. Tu sais que tu pourras pas en profiter pleinement. Parce qu'il faut savoir que les vacances, les enfants, ils s'en foutent. Hein, c'est pas parce que t'es dans un endroit paradisiaque qu'ils vont moins te faire chier. C'est même possible que ce soit l'inverse. D'ailleurs, j'ai découvert que le mot « dent » était synonyme de « chier ». Exemple, en ce moment, Léo fait ses dents. Vous voyez ? Moi, j'ai qu'un enfant. Ça va. Mais il y a des couples qui viennent avec trois, alors qu'ils sont que deux dans le couple. Oui, il y a un souci mathématique. Parce que quand le papa est déjà occupé à faire manger le premier gamin et la maman à changer le deuxième, et bien le troisième, forcément, il est pour ta gueule, même si t'as rien demandé. Hein, moi, si je voulais me retrouver avec des enfants qui sont pas les miens dans les bras, bon, je serais devenu sage-femme ou Michael Jackson. En fait, on l'embrasse. Pour le bien-être de tous, il faudrait appliquer les mêmes règles pour les enfants en vacances que pour les bagages en avion. C'est un seul par personne, sinon tu perds un supplément. Quand t'es en vacances avec des potes et leurs gamins, il y en a toujours un qui vomit tout le temps. Nous, c'était Alex. Alex, c'est pas un enfant, hein, c'est un papa qui boit pour oublier qu'il a un môme. Ouais, parce que le soir, quand les gamins étaient couchés, nous, on essayait de se bourrer la gueule. Mais au final, il n'y a rien de plus saoulant qu'un enfant. Et puis, de toute façon... Les soirées, c'était vite fait. Hein, 22h30, après le dîner, ça donnait ça. On fait un jeu, une belote, oh, un time's up, on va se coucher. Oh ouais, et voilà, on allait se coucher. Et il y a des gosses, ils mettent 3 heures à s'endormir. Et le lendemain, c'est les premiers à se réveiller. Ils réveillent toute la baraque. Ça te fait regretter que la piscine soit aux normes de sécurité. Ouais. Les gars, le robot qui nettoie la piscine, là, il a un t-shirt pyjamax et il chausse du 27. Il chausse du 27? Non? Oh, alors bonne nouvelle, on va pouvoir faire la grasse mat demain. Non mais les gamins, attends, ils étaient 5, mais ils faisaient un roulement pour pas qu'on fasse de sieste. Tu sais, c'est comme les matons à Guantanamo, c'est les mêmes, mais en plus petit et sans la moustache. C'est dur d'être parent. Il y en a, ils ont des réflexes bizarres. Dès qu'il y a une odeur suspecte, tu sais pas pourquoi, ils retournent leur gosse et ils leur sentent le cul. Une fois, il y en a une, elle a senti le cul de tous les gamins dans la maison alors que c'était moi qui avais pété. Je l'appelais le décodeur. Elle comprenait tout ce que son gamin lui disait. Bon, il y a croyant là-bas. Apparemment, ça veut dire, oh, il y a un écureuil là-bas. Moi, je pense que dans leur dialecte, les gamins se donnent des directives. Par exemple, bon, comment on pourrait leur péter les couilles? Je sais pas, je peux peut-être crier fort longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire si ça tombe? Ils vont le changer. Attends, j'attends qu'ils ouvrent ma couche et je leur fais dessus.
Nagui.
Oh, tu es le diable. Nous, on avait un voisin bizarre où on était et on sentait qu'il parlait leur langage.
Youlé, peux garder les pions, ouais, merde.
Pardon?
Peux garder, gamin, il y a un camionnet, il n'y a pas de flic ici.
Qu'est-ce qu'il dit, le moustachu?
Ah, peux garder, gosse.
Mais bon sang, mais vous parlez comme les médecins écrivent.
Ouais, t'encules, moi.
Bah, là, je crois que j'ai compris l'essentiel. Tiens, écoutons un petit extrait d'Yves Bouteille. Le moment musique.
Oui.
Je sais pas si tu vas apprécier, voilà.
L'intro est très longue.
L'intro, c'est vrai?
Ah, elle est très longue.
Oh, bah, je vais chanter sur l'intro, là.
Attends.
Te pète pas le truc.
Attends, prends ton
moment
temps.
Suspendu.
Vas-y, Jérémy Crédit.
Très bien.
Yves Bouteille.
Prendre un enfant par la main pour l'emmener dans le ravin.
Non.
Si.
Ou l'étouffer lentement dans ses draps.
Je commençais trop tôt. Ouais.
Lui donner de la mort au rat.
T'es un criminel.
Prendre un enfant dans ses bras.
Pas grave, pour l'instru.
Et lui casser les tibias.
En fait, tu es décalé.
C'est pas grave.
Le regarder brûler en ressentant de la joie. Vacances ou enfants, j'ai pas le choix.
Un vrai massacre. Oui. Quel éclatement, merci.
Sur France Inter.
Comme t'as démarré trop tard, en fait.
Ah mon Dieu.
On a pris le deuxième cycle.
J'ai tout
après,
fait à refaire.
Il est mort deux fois.
C'était un vrai massacre. Comme il fallait. Non, la musique, la vraie bonne musique, elle est dans le film. Choisis-moi, j'adore ce titre de Jerry and the Pacemakers.
When you walk through a storm, hold your head up high.
You'll never walk alone. Il y a également dans le film. Wakaboon. C'est Kalash et Damso. Damso seul.
DJ Nagui.
Moonlight Benjamin, où vous l'avez trouvé cette
chanson? En Haïti, c'est une chanteuse blues vaudou, etc., que je trouve très très puissante.
Ouais. Et vous avez tenté une expérience en Haïti, parce que forcément, quand on fait un film sur ce sujet, vous avez dû assister, observer des cérémonies vaudou.
J'ai assisté en préparation à deux cérémonies vaudou, puis après on en a filmé une troisième pendant le tournage. Voilà, j'ai pas été possédé, par exemple, si c'est ça le sens de votre question.
Vous l'avez tenté?
J'ai assisté à des cérémonies, hein. Après, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça se termine, c'est une espèce de transe qui se met en place, comme ça, musicalement et vocalement, c'est très impressionnant.
Est-ce que c'est comme l'hypnose, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut être, il faut accepter de se laisser posséder?
Je pense, oui. À un moment, il y a un abandon qui doit se mettre en place.
Et vous étiez en contrôle?
Non, en tout cas, les esprits ne m'ont pas choisi pour me chevaucher, comme on dit.
Ce qui veut donc. Vous avez été vexé?
Un peu. La première fois, j'ai dit d'accord. La deuxième fois, j'ai dit bah. Alors,
et moi, quoi.
En même temps, quand on voit le film, on n'a pas forcément envie d'être possédé.
Non, c'est vrai.
Il faut y croire. Vous pensez à tout ce qui. Occulte.
Alors, c'est vraiment la bonne question. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois y croire? Est-ce que je ne dois pas y croire? Alors, moi, comme étranger, hein. Et en fait, je me suis dit, en fait, il faut juste constater. Voilà. Qu'à un moment, ces choses-là sont là et elles se produisent.
Et pas juger.
Exactement. Elles se produisent de cette manière-là. Et je suis arrivé dans cet état d'esprit, en fait.
Encore une fois, c'est pas un film d'horreur. D'ailleurs, on vous a déconseillé d'appeler le film Zombie Child. Parce on que c'est posé... vrai que sur le titre, on se dit, on va...
Voilà, on va non, voir. Mais on s'est posé la question, évidemment. Alors, c'est sûr que en France, par exemple, où je suis là pour accompagner le film, où il y a de la presse, où les journalistes écrivent, je pense pas qu'il y ait de malentendus. Après, pour l'étranger, c'est peut-être un peu... Mais c'est vrai que pour des gens, il faudrait pas qu'ils aillent pour des mauvaises raisons, etc. Mais on a décidé de garder le titre d'abord parce que dans Zombie Child, il y a vraiment quelque part tout le film. Il y a à la fois la partie haïtienne et aussi... L'enfance partie française, puisque c'est cette jeune fille qui est là. Et puis qu'il y a quand même, moi je trouve, une émotion sur la fin du film, quand le titre apparaît sur cette jeune fille, que voilà, j'avais pas envie de couper.
La musique est vraiment votre frangine. Elle vous accompagne toute votre vie. Vous avez expliqué comment vous dirigez les acteurs et les actrices en leur donnant à chacun, chacune, la bande originale de leur personnage et pas celle du film. Dans quelle humeur, dans quel état d'esprit ils doivent se mettre avant de jouer telle ou telle scène. Donc, cette émission est faite sur mesure pour vous. La BO de Bertrand Bonello commence dans les années 60. Fin des années 60, Frankie Valli avec Begin, qui a été repris, qui est redevenu un succès il y a quelques années.
Et 68, c'est votre année de naissance, Bertrand Bonello. Et vous parlez de...
À Nice.
À Nice, d'une famille éprise de culture. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement?
Alors, en tout cas, qui était prête à l'accueillir. Alors, il se trouve qu'en effet, la Polonie, dont on a parlé tout à l'heure, était une grande maison, parce que mon père avait beaucoup de frères et sœurs. Moi, je suis seul, il y avait beaucoup de chambres. Donc, les gens qui voulaient venir écrire un livre, peindre, etc.
Résidence d'artiste, en fait.
Oui, ça s'appelait pas comme C'était plus fait de manière plus improvisée. Mais c'est vrai que c'était dans les années 70 très, 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 très présent. Oui.
Et qui étaient ces artistes, pour nous donner une idée?
Qui étaient ces artistes?
Spielberg.
Voilà. C'est ça. Non, il y avait pas mal. Bon, c'est après ce qu'on appelle aussi l'école de Nice de peinture. Il y avait pas mal tous ces peintres, que moi je voyais passer à la maison, les César et compagnie. Enfin bon, c'était.
Kissaring.
Très fluide. Oui, oui.
Kissaring est venu à la maison.
Oui, il est venu, oui.
Il a dessiné 2-3 trucs sur les murs ou...
Alors, sur les nappes, et après, il y avait un truc, il adorait faire ça. Et après, il me dit, le problème, c'est que je fais ça, et après, les gens les volent, les revendent, et c'était pas son idée de la culture pop, quelque part.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'il a fait ensuite ses t-shirts.
Le cinéma à Nice, c'est studio de la Victorine. Vous y avez traîné vos gâtres ou pas du tout?
C'était un peu, pas le déclin, mais enfin, en tout cas, j'habitais vraiment, vraiment, vraiment à côté. Et là, je sais qu'il y a des nouveaux gros projets pour les studios de la Victorine.
Pour relancer, oui.
Ouais, pour les relancer, pour... Moi, je suis assez pour. Hein,
Et comment le cinéma est rentré dans votre vie?
Alors, il est rentré en plusieurs fois. Alors, j'habitais un peu la campagne.
On parle du cinéma. Hein.
Oui, j'ai entendu. J'habitais un peu la campagne c'est l'arrivée aussi des vidéoclubs. Moi, c'était chez le marchand de journaux. Il y avait une espèce de pile de VHS qui arrivait comme ça tous les samedis. Et globalement, que des films d'horreur ou des films porno. Hein,
La base.
Des films de genre.
Le cinéma.
Des films de genre. Ouais. Voilà. Après, ça a été, on en a énormément regardé. Et puis après, moi, je suis reparti à fond vers la musique. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un choc avec un film, qui est le Stranger Than Paradise de Jarmusch. Où je me suis dit, qui est pour moi un film très rock, enfin, qui me parlait complètement. Et je me suis dit, le cinéma, en fait, ça peut être aussi bien que la musique. Et j'ai un peu bifurqué.
En 91, pour vous, l'année 91 correspond à Bob Dylan. We live in a political world, icicles hanging down, wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. Pourquoi ce titre?
Pourquoi ce titre?
Avec 91, oui.
Alors c'est un album que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté, que peut-être les plus puristes des Dylaniens n'aiment pas trop parce qu'ils le trouvent trop produit. C'est un album qui est produit par Daniel Lanois, que enfin moi j'ai retrouvé un...
Qui a produit aussi les albums de U2 et...
Avec Brian Eno, ouais, etc. Voilà, et c'était Stone, c'était ouais. un nouveau Dylan. Moi, il a produit les Neville Brothers. Enfin, c'était un son qui arrivait, et dans ce son, il y avait la voix de Bob, quoi. Et puis, je trouve les compositions, notamment celle-ci, vraiment électrisantes. Enfin, pour moi, c'était un peu une renaissance de Bob Dylan, ce qui est toujours une bonne nouvelle.
Et dans ces années 90, vous accompagnez un certain nombre de chanteurs sur scène, que ce soit Carole Laure, vous avez joué sur l'album de Daniel Darc, aussi de Françoise Hardy, enfin, vous avez une liste assez impressionnante.
Ah ben attends, c'est lui qui joue là-dessus.
C'est vrai, je fais l'orgue à monde.
Énorme dû.
Qu'on était venu jouer à Taratata.
Énorme, énorme. Sur Daniel Darc. Là, vous êtes à la guitare ?
Piano.
Piano toujours ?
Ouais, c'est plutôt les claviers. C'était une drôle de session d'album. Daniel n'était pas hyper en forme. Mais après, bon, là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Que j'aimais beaucoup.
Carole Laure, que l'on retrouve là aussi, et en musique et en comédienne sur le court-métrage.
Un court-métrage qui aussi a un petit peu disparu.
Le bus d'Alice, voilà. Ça en fait deux.
Vous ressortez tout là, c'est vrai. Voilà, c'était. Non, mais j'ai beaucoup d'affection pour ces moments où on est plein d'innocence en fait.
Ouais. Voilà. Et vous l'avez beaucoup accompagné à Montréal aussi ?
On avait fait une très très longue tournée, ouais, très longue. Qui m'a permis de gagner un petit peu d'argent et de me payer mon premier court-métrage.
Le fameux.
Sans se méprendre sur la phrase que je vais dire, parce que je me méfie autour de cette table, elle a un côté ensorceleuse, mais de séduction, Carole.
Je ne peux que confirmer.
Non mais je repense, je pense à, je vois Carole Laure, je vois Zombie Child et je trouve que ça lui va bien aussi. Elle a un côté envoûtant.
Elle a
je sais pas comment
expliquer. Un côté Zombie Child.
Elle est extrêmement drôle. Elle est drôle, elle est vivante, elle est.
Vous êtes amoureux là.
Moi j'adore Carole Laure. J'adore. C'est formidable.
Ses premiers films sont assez ensorcelants.
Ah oui, totalement.
Québec, ouais.
Totalement. 2011, on arrive à l'Apollonide, et film culte évidemment, et vous écoutiez. Moses, Bad Girl, ça fait partie de la BO.
Oui, je l'ai tellement écouté que je l'ai mis en générique de fin. Et c'est vrai que voilà, pour un film sur les prostituées dans une maison close, Bad Girl, voilà, ça fonctionne plutôt assez bien. Mais après, au-delà de ça, moi, c'est vrai que
c'est Bad Girl ou c'est Poor Girl, elles sont. C'est pas des mauvaises filles,
non,
en fait.
C'est
elles
pas
sont
des mauvaises
victimes.
Filles, mais c'est aussi le jugement qu'on peut en avoir.
Que la société peut en avoir.
Mais ce morceau m'a rendu complètement dingue. Hein.
En transe.
Ouais, on a l'impression qu'ils vont tous mourir après la session d'enregistrement, quoi. Enfin, que ce soit le batteur, le bassiste et lui, Lee Moses, c'est incroyable, la générosité, le don. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est la dernière fois qu'ils jouent de leur vie.
On a surtout l'impression que ça n'existe plus vraiment, ce genre d'interprétation.
C'est vraiment une période, c'était une manière d'enregistrer, c'est la soul, etc. Enfin, c'est des musiques qui sont très importantes pour moi.
Et dans votre filmographie, avant l'Apollonide, il y a eu Le Pornographe. Il y a eu Tiresia aussi, avec là aussi un angle assez prononcé sur la notion de la sexualité. Est-ce que c'est quelque chose dans une filmographie qui est compliqué, au sens où on a peur d'être associé à ça?
Oui, alors à un moment on me l'a un peu beaucoup dit, parce que Le Pornographe, Tiresia, etc. Et j'essaie quand même de dire, beaucoup plus que la sexualité basique, ce qui m'intéresse c'est un peu la marge. Comme disait Godard, la marge c'est bien, c'est là où on prend les notes. Enfin, c'est vrai que
parce que Tiresia c'est l'histoire d'un transsexuel.
Oui, un pornographe, captif, un transsexuel. Bon là on a un zombie, on a même Yves Saint Laurent quelque part qui est aussi dans la marge. Enfin, c'est vrai que les milieux marginaux, les gens marginaux m'intéressent un petit peu plus. Ouais. C'est que souvent associé à la marge.
Sortir du sentier battu, sortir des.
La contre-culture, etc. Mais associé à la marge, il y a aussi souvent la sexualité. Oui.
Ouais.
Ça vous démange aussi en tant que créateur de ne pas faire les choses dans les clous et là où on vous attend ?
Bah, un petit peu, quoi. Un petit peu. Après, il faut faire attention à pas se retrouver trop isolé.
C'est un prix, être en
voilà,
marge.
C'est un prix, en effet. C'est un prix. Après, c'est aussi une nécessité de se sentir je fais ça aussi parce que d'autres ne le font pas. Enfin, c'est des raisonnements complexes, mais c'est vrai que ça a un coût parfois. Ouais.
Philippe Delisle, merci de venir à ce micro. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 3, spécialiste de l'histoire religieuse des colonies françaises. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question, dont le catholicisme en Haïti au 19e siècle. Vous êtes le mieux placé peut-être que nous tous autour de cette table. Bertrand Bonello, lui, a vécu des expériences de vaudou, mais pour nous expliquer, nous donner une définition du vaudou.
Alors, donner une définition du vaudou, c'est compliqué, je vais mal commencer. C'est un terme africain, c'est un terme qui vient du Bénin, dans Langfon, et qui veut dire puissance invisible, c'est les forces de la nature. C'est ce que les anthropologues de nos jours appellent le vaudou une religion créole. Un créole, c'est l'idée que c'est reconstitué dans les îles, c'est né dans les îles. Il y a la cuisine créole, il y a la musique créole, le zouk par exemple.
Donc c'est une religion, c'est pas
voilà,
une...
C'est une religion, et pendant longtemps ça a été très décrié, et on a considéré que c'était de la sorcellerie, ouais. Que c'était un fatras de superstition, mais... chose qu'on disait aussi à propos des traditions africaines, et de nos jours on considère tout à fait que c'est une religion tout à fait officielle. Alors, avec
une religion
un ensemble
officielle...
de croyances, des mythes, des prêtres, etc.
Il y a combien de pratiquants alors aujourd'hui de vaudou?
Alors les pratiquants, c'est dur à trouver, parce que c'est pas une religion qui a pignon sur rue, c'est pas comme le Vatican qui fait des statistiques, et en plus souvent les vaudouisants sont aussi catholiques, et quand on leur demande, ils osent pas dire qu'ils sont vaudouisants, ils disent qu'ils sont catholiques. Alors c'est Haïti, c'est reconstitué en Haïti à partir d'éléments africains. Haïti, il y a à peu près 10 millions d'habitants, donc il y a forcément quelques millions d'adeptes du vaudou haïtien, mais pas seulement en Haïti, parce que comme les Haïtiens pauvres ont pas mal migré, on a aussi des temples vaudou à Paris, en banlieue parisienne, à Brooklyn, à côté de New York ou un peu partout.
Mais alors, point fort, c'est quoi? C'est de penser que l'on peut revenir de l'au-delà, on peut communiquer, alors, on peut être possédé par les esprits. Qu'est-ce qui les différencie? Vous dites que c'est comme une espèce de branche du catholicisme. Il y a quand même des nuances un peu.
Ah non, c'est pas une branche du catholicisme.
Non, pardon, ils se revendiquent catholiques.
Ça s'est mêlé, c'est-à-dire voilà. Que tout ça c'est né avec l'esclavage et la colonisation. Bertrand Bonello l'a un petit peu dit. Haïti auparavant c'était Saint-Domingue, qui était une colonie française des Antilles, la plus grande colonie à sucre, celle où on importait le plus d'esclaves, 1 million d'esclaves à la veille de la Révolution. Et donc, ces pauvres esclaves, on vivait dans des conditions très difficiles, venaient d'ethnies diverses. En théorie, on les christianisait, mais dans la pratique, les maîtres voulaient surtout qu'ils travaillent. Et donc, ils avaient besoin de se recréer une espérance, des protections surnaturelles. Et ils ont repris ce dont ils se souvenaient de l'Afrique, mais en mélangeant des traditions africaines diverses, puisqu'ils venaient d'ethnies différentes. Et puis, ils ont intégré des éléments du catholicisme, parce que le catholicisme, c'est la religion des Blancs. Donc, évidemment, c'est la puissance, puisque les Blancs sont les maîtres. Et tout ça s'est mêlé pour créer une vision du monde originale, qui est une religion à la fois de la résistance, de l'adaptation à cette situation.
Mais qui est aussi liée à des objets porte-bonheur, un envoûtement, à des recettes de potions magiques ou mortelles.
C'est comme l'exorcisme aussi, en même temps, non ? Il y a des parallèles dans toutes les religions, j'imagine.
Oui, tout à fait. Alors, c'est la base hein, du système, c'est l'idée qu'il y a des forces de la nature qui interviennent. Ils croient en un dieu, hein. Pour ça, ils croient en dieu des catholiques, mais avec l'idée, on dit, il y a un proverbe ici, on dit bon dieu est bon, c'est-à-dire bon dieu, bon, il est bon, mais bon dieu, il a créé la terre, ça l'a fatigué, il se repose, donc il n'est plus là, on ne peut plus rien demander. Et donc, il faut bien faire avec quelqu'un, et on fait avec des puissances de la nature, des forces qui sont à la fois des êtres qui ont une mythologie, mais aussi qui peuvent être des lieux, des arbres, etc. Et il faut s'accorder ces puissances. Bertrand Bonello en parlait, notamment le fidèle, il va chercher à être possédé par la puissance qui va l'aider lors de cérémonies dans le temple. Mais à partir du moment où on croit qu'il y a ces puissances de la nature qui sont partout, qui interviennent, bah évidemment ces puissances de la nature, on peut aussi les capter pour avoir de la chance, ou bien au contraire pour faire le mal. Et donc forcément, à la limite de ces croyances, il y a la croyance en la magie et en la sorcellerie.
Il y a aussi la croyance en ses ancêtres et dans leur soit la réincarnation, soit leur présence d'une manière extrêmement proche de nous aujourd'hui, de l'influence de tous ceux que l'on a connus et qui ne sont plus de ce monde. Ils sont présents, on a le sentiment d'être...
protégés.
Ouais, ou les échos en tout cas de de ceux qui ne sont plus de ce monde.
Oui, il y a un rapport aux morts. Hein. On voit, il y a des, dans la bande-annonce du film, on voit une cérémonie d'enterrement à Haïti qui est très fort et qui renvoie quand même assez aussi ça à la mentalité africaine. Hein. Dans la mentalité occidentale chrétienne, les morts, ils sont au ciel, ils sont au-dessus, ils sont partis. On peut prier pour qu'ils aillent bien, mais ils sont plus là. Dans la mentalité africaine, d'Afrique occidentale, les morts, on dit, c'est les vivants invisibles. C'est-à-dire, ils sont toujours là, on les voit pas, mais ils sont dans le village d'à côté. Et du coup, faut faire attention parce que le mort, si vous êtes mal avec lui, il peut venir vous châtier les pieds. Alors, par exemple, quand on enterre quelqu'un en Haïti, quand on porte le cercueil dans les campagnes, on va essayer de se perdre un petit peu par des chemins de traverse pour pas que le mort puisse retrouver la maison d'où il vient. Parce que si jamais il sort de sa tombe, vaut mieux qu'il puisse pas revenir chez vous. Ah, donc, faut faire gaffe.
Et là, ce qui est raconté dans le film, c'est-à-dire que des personnes étaient empoisonnées pour passer pour mort le temps de les mettre en terre, puis d'aller les entre guillemets les récupérer, les sortir, les soigner un tout petit peu et d'en faire des esclaves. Ça, c'est historiquement prouvé.
Alors c'est historiquement très très présent, très très fort. D'accord. Les gens y croient, en ont très peur. D'ailleurs, ce qui fait qu'en Haïti, on tue les morts parfois. Hein. C'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'un mort, il n'y en a pas zombie, en l'empoisonnant, le poignardant, lui tirant une balle dans la tête dans son cercueil. Même des Français, hein, j'avais trouvé des archives début 20e siècle où un Français installé en Haïti, son frère meurt accidentellement, il lui tire une balle dans la tête pour être sûr que le type ne reviendra pas comme zombie.
Donc les zombies existent ?
Les zombies existent, en tout cas il y a des gens qui témoignent avoir été zombifiés. Bertrand Bonello s'est inspiré d'un cas réel. Il y a des psychanalystes qui les soignent, il y a des cliniques qui accueillent les zombies.
C'est au professeur d'histoire que je pose la question.
Voilà, mais je pense les sociologues et les historiens vont vous dire aussi derrière tout ça, croyance, réalité, ce qui est intéressant, c'est l'imaginaire qui sous-tend tout ça, ce que ça mobilise. Et finalement, le zombie, si on réfléchit, c'est quelqu'un, donc un sorcier l'empoisonne, on l'arrache à sa famille, on croit qu'il est mort, et puis il revient à l'état de robot et on va le faire travailler sur une plantation.
Ouais.
C'est quoi? C'est l'esclave. L'esclave qui a été emmené loin de chez lui en Afrique par la traite négrière et que le maître blanc a soumis sur la plantation. Et donc finalement, c'est le complexe de l'esclavage qui a jamais été évacué dans ce pays. Alors vous me direz peut-être, oui, mais c'est vieux l'esclavage en Haïti. Mais sauf que l'esclavage a disparu, mais la domination, l'exploitation dans ce pays très pauvre continue énormément. Et Zombie Child, c'est l'enfant du zombie. Mais par exemple, en Haïti, il y a énormément de jeunes enfants qui sont domestiques dans des situations très dures, arrachés à leur famille et finalement qui sont un peu des zombies.
Mais alors, pardon, vous êtes professeur et vous êtes spécialiste de l'histoire religieuse des colonies françaises. La religion et les colonies, c'était aussi deux choses... Les colonies étaient faites pour
évangéliser,
rendre catholiques, oui, ceux qui ne l'étaient pas.
Alors ça, c'est ce qu'on pense et c'est la théorie. C'est vrai que la théorie de justification de la traite des Noirs était de dire, oui, on va emmener les esclaves, ça va être bien dur aux Antilles, mais on en fera des chrétiens. Puis il y avait même des théologiens qui disaient, finalement, c'est bien pour eux, parce que comme ils vont en baver, à l'époque où le catholicisme est assez doloriste, ils auront une belle place au paradis. Hein, c'est tant mieux pour eux, finalement, dans l'éternité. Mais dans la réalité, à l'époque de l'esclavage, dont on s'aperçoit quand on va dans les archives, c'est que les maîtres, c'est les capitalistes, c'est les planteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que les esclaves bossent. Donc, ils veulent pas tellement que les esclaves perdent leur temps à aller à l'église, soient particulièrement instruits. Et puis même, on est dans des sociétés extrêmement racistes, où il y a une volonté de mettre une coupure très forte, hein, comme la ségrégation aux États-Unis ou l'apartheid en Afrique du Sud, entre noirs et blancs. Et donc, ces sociétés, elles n'admettraient pas, par exemple, que des esclaves fassent leur première communion. Parce qu'un noir qui fait sa première communion, il vaudrait autant qu'un blanc. Donc, en général, on les baptisait, vaguement. Et puis on les laissait se débrouiller, ce qui explique que les esclaves reconstituaient finalement leur propre culte à partir de souvenirs africains, mais en ajoutant un peu de catholicisme qui se baladait là autour. Et dans le vaudou, par exemple, c'est étonnant.
Donc on se servait un tout petit peu de la religion pour faire passer des manipulations ou des dominations.
Oui, aussi le discours ouais. Général, oui. Mais la christianisation n'était pas très profonde.
De l'enseigner aujourd'hui, ça permet à vos étudiants de... à part de mieux connaître le passé aussi, mais de tirer quel enseignement pour mieux préparer le futur?
Alors, c'est intéressant, je trouve, parce que Haïti, toute cette culture antillaise, c'est notamment un des premiers lieux dans le monde où un métissage très fort s'est fait. Hein. Édouard Glissant, qui est un grand intellectuel antillais, a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Le Tout Monde, en disant finalement, les Antilles, dès le XVIIe siècle, il y avait des Amérindiens, on fait venir des Noirs, il y a des Espagnols, des Anglais, tout ça se mélange, des cultures nouvelles apparaissent, et finalement, ça préfigure notre monde actuel, et ça nous donne peut-être des clés sur comment se débrouiller dans notre monde actuel, comment faire cohabiter toutes ces cultures, créer des choses nouvelles, gérer les tensions, gérer la violence, les situations de domination parfois.
Merci d'être venu de Bourg-en-Bresse, Philippe, ce matin, pour venir à ce micro d'Inter, Philippe Delisle, professeur d'histoire contemporaine de l'Université de Lyon, Paris 3, Lyon 3, pardon, pas Lyon
c'est
Paris.
C'est un plaisir, merci.
Tanguy Pastureau, la phrase, bonjour Tanguy.
Bonjour.
La phrase « Vive Mera », malheureusement, a été taguée ce week-end.
Oui, sur la maison de Latifa et Ben Ziaten, cette mère dont Mohamed Mera a assassiné le fils et qui depuis porte un discours de paix. Faut y aller, hein, moi un refus de priorité, j'ai la haine sur trois générations. Elle perd son enfant et a le courage de propager la tolérance. Bref, si Stéphane Plaza veut faire du homestaging gratos, il y a un pavillon à repeindre.
On en reparle après les infos. La bande originale, Leïla Kadour-Boudali,
bonjour à tous.
Daniel Morin,
oui.
Algar Algo, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau,
bonjour.
Et notre invité Bertrand Bonello.
Bravo. Bravo. Bonjour.
Zombie Child, ce film avec ses adolescentes portées par Louise Labeck, Vislanda Louima, Adilé David, Ninon François et Mathilde Rioux. Ces adolescentes qui vont aller découvrir les à la fois la vie, l'amour, le rapport entre elles aussi. Elles ont 15-16 ans à peu près, c'est ça,
tout à fait, ouais.
Dans ce pensionnat de jeunes filles, cette maison d'éducation qui se trouve à Saint-Denis, près de la basilique et du Stade de France, deux lieux cultes. à défaut d'être un lieu de culte.
Puis la basilique, c'est quand même le lieu des femmes, des reines, donc c'est bien aussi que ça soit à côté. C'est les filles qui sont à l'honneur dans ce film.
C'est un film assez féminin, en effet. Oui. Ouais.
Alors pourquoi parce que vous avez une adolescente à la maison, ou pourquoi ce prisme féminin?
Pourquoi ce prisme féminin?
Est-ce que ça aurait pu être l'histoire d'ado, point, et pas forcément d'ailleurs dans ce pensionnat?
C'est vrai, après j'ai voulu un petit peu débarrasser l'adolescent des parents, etc. Donc je voulais le ouais. lieu clos. Bon, après moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, je l'ai fait aussi avec la Polonide.
Ouais, ouais.
Et Nocturama aussi.
Vous aimez ça. Donc les mettre entre elles, ouais, je pense que je préférais que ce soit des jeunes filles entre elles plutôt que des jeunes garçons entre eux. Mais le pensionnat de garçons, c'est autre chose. Puis moi j'ai fait pensionnat de garçons, je l'ai vécu en Angleterre. Donc voilà, j'avais...
C'est aussi violent que ce qu'on dit ?
Il y a un film qui s'appelle If, qui a eu une palme d'or en 69, je pense.
C'était sur un pensionnat de filles ?
Non, garçon, oui. Ouais.
Garçon ?
Ouais.
Qui se révolte,
oui. Ouais.
Ah oui, pardon. Non, mais il y avait un autre film sur les pensionnats de jeunes filles en Angleterre. Extrêmement violent, ou physiquement en tout cas.
Beaucoup de films qui se passent en Angleterre sont violents physiquement. Non, et puis je pense que ça me ramène aussi à des choses comme Suspiria, ou ces jeunes filles dans le pensionnat, ou en effet on parlait tout à l'heure de Carrie, enfin c'est des... Voilà.
Et alors, ce projet est venu finalement comme un projet par défaut, vous étiez entre deux films, et il est sorti comme une nécessité?
Oui, enfin entre deux films avec un projet au milieu qui était vraiment
plus lourd, peut-être.
Très lourd, très complexe, un peu long, peut-être 4 fois 1 heure, je ne savais pas encore, etc. Et je sentais la montagne de la production me tomber dessus. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, et si j'essayais l'opposé, c'est-à-dire faire différemment, faire plus vite, et faire ailleurs aussi. Voilà, c'était la nécessité, elle était aussi de ça, hein. C'était aller ailleurs et faire différemment.
En tout cas, c'est pas un film qui fait peur, mais c'est un film
L'atmosphère.
Qui est touchant.
L'atmosphère.
Oui, mais l'atmosphère, parce qu'on est la nuit, parce que on ne sait pas ce qui va se passer derrière telle porte ou derrière dans telle autre salle, qu'il y a en effet des bruits, des sons, des évocations. On a toujours peur qu'à un moment donné ça bascule. Vous jouez avec ça. Alors pardon, je sais pas si vous nous en voulez de dire que finalement il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de quoi sursauter, il n'y a
pas
de quoi avoir
peur. Non, non, pas du tout, pas du tout. Le projet du film, il n'est pas du tout à cet endroit-là. Il n'est pas de faire peur. Ouais. Après, que les jeunes filles entre elles, quand elles commencent à comprendre que cette jeune haïtienne, elle a un secret, que ça touche aux zombies, que ça touche aux vaudous, etc. Elles, c'est presque elles-mêmes qui s'amusent à se faire
elles
peur.
Elles entretiennent ce mystère.
Et les plus dangereuses dans la bande ne sont pas forcément celles auxquelles on pense.
Non, puis elles sont un peu dangereuses par... Par méconnaissance. Voilà, elle est coupable
sans l'être. Elle découvre la vie, elle découvre l'amour, elle ne savent pas, on parlait tout à l'heure de possession au sens sorcellerie du terme, mais c'est vrai que être amoureuse d'un garçon qui vous quitte et s'accrocher à cette histoire d'amour, c'est une forme de possession
c'est
qu'on
être
s'impose.
Complètement possédée. Ouais. Et là, quand elle va voir la tante qui est donc une mambo, donc une prêtresse vaudou, ses mots c'est je veux être dépossédée. L'autre lui dit mais je fais pas d'exorcisme.
Elle change d'avis aussi. aussi.
Elle change d'avis.
Elle change d'avis. Zombie Child, c'est demain au cinéma. Tanguy Pastureau, c'est tout de suite sur Inter. Tanguy, la peinture, c'est formidable.
Oui, regardez toutes ces œuvres incroyables. L'origine du monde de Courbet, qui montre ce qu'était l'humanité avant la création du rasoir Gillette Vénus. La Joconde, qui vous suit du regard, où que vous soyez dans la pièce. La faute, je l'ai vue, j'ai failli porter plainte pour harcèlement. Et le pire, c'est qu'en même temps, elle suivait des yeux un touriste allemand en short, il me l'a dit. C'était très chaud, on serait cru au Cap d'Agde à la soirée trio. C'est la peinture qui a permis à Michel-Ange de réaliser la fresque de la chapelle Sixtine. C'était le Valéry d'Amido de l'époque. Sauf que lui peignait Adam, le premier homme. Le deuxième s'appelait Jean-René, je crois. Le Adam de Michel-Ange était hyper baraqué, ce qui permettait à personne de s'identifier. C'est pourquoi le peintre lui a mis un micro-pénis et on a tous pu se dire « je suis Adam ». Et puis, avec les peintures, on peut se faire des tétons en marbre, comme le disent ceux qui refusent d'employer l'expression « couille en or », dont moi, hors de question que je dise ça un jour. Par exemple, un Van Gogh, ce peintre qui se découpait lui-même, c'était une sorte de kebab humain. Ben, ça peut se vendre 150 millions de dollars aujourd'hui. Bref, la peinture, c'est super. Sauf que tout le monde n'est pas Rembrandt, à part lui-même et son fils, qui n'a pas eu le même parcours puisqu'il est devenu Instagrammeur en 1660, ce qui est totalement con. Il se peignait lui-même en slip sur des toiles avec des pectoraux huilés et disait aux gens dans la rue, bah, allez-y, likez. Et certains avec de la peinture font de belles saloperies, comme taguer la maison de Latifa Ibn Ziaten, cette mère d'une des victimes de Mohamed Merah, qui depuis lutte contre la haine. Elle est au niveau 400 sur 400 de la résilience. Quand il pense à elle, Boris Cyrulnik est aussi moite qu'un gros lézard trop resté au soleil. Cette dame, donc, on a envie de la respecter. Même Daniel Riolo et Jérôme Rotten sur RMC auraient pu avoir envers elle des propos élogieux. Avant de hurler, bon, c'est pas tout ça, on repart sur le top 10 des petites catins du sport, c'est poufias. Mais non, il a fallu qu'un ou des gens utilisent de la peinture pour taguer la maison de Madame Ibn Ziaten. Alors elle a tweeté 4 photos des tags, donc a mis de la poésie, de l'amour et des petits osios qui copulent dans les forêts fleuries, éteignez ses garanties 100% haine. D'abord a été écrit « Vive Mera ». Or je rappelle que ce dernier a tué des enfants à bout portant, ce qui en théorie vous garantit après la mort une place sans slip sur les genoux de Satan, alors que lui est en érection et il a le membre en feu. Comme lors d'un barbecue, monsieur Yves se serait confondu avec une merguez. Par conséquent, non, pas Vive Mera. Et à moins qu'un homonyme un jour sauve 1200 chatons de la noyade en direct sur la chaîne Animaux, jamais on ne dira ça. Ensuite, sur la maison est épeinte la phrase « Juif bientôt mort ». Un classique, autant je ne sais pas trop bien si j'aime ou pas les juifs et rarement tagué, parce que ça suscite une réflexion. Or, un mur n'est pas là pour ça. Sur un mur, on joue au tennis quand on est seul ou dépressif, à part Nadal qui, s'il le fait, provoque l'effondrement de la baraque. Bref, juif bientôt mort, c'est direct, précis. L'antisémite sait ce qu'il veut. Voyez Hitler, il n'était pas connu pour être rongé par le doute. Sinon, il aurait fait des chansons sensibles et introspectives et ce serait devenu Adolf H, le Dominique Had alors.
Mais enfin...
Pas la peine de préciser, vu le niveau intellectuel de ces gens-là, c'est bourré de fautes d'orthographe.
Ah oui, Nagui, on a affaire à des personnes qui ne maîtrisent ni la grammaire ni l'orthographe. À la dictée de Leïla sur France 3 vendredi, on les aurait redirigés sur Baby TV, parce que le niveau est celui d'un fœtus d'accro au crack. Juif bientôt mort, par exemple, a été laissé au singulier. Donc, pardon, mais enfin, c'est le projet d'Holocauste le plus minable de l'histoire. Ou alors l'auteur des fêtes souhaite la mort d'un seul juif. Mais dans ce cas, lequel? Patrick Bruel, Smaïn, Lily Rose Depp, Daniel Morin? Enfin oui, j'ai volontairement mis des intrus pour qu'on ne sache plus qui il est, parce que j'en peux plus de voir chacun résumé à son identité. Tataillé, gros quick. Ensuite, sur la terrasse de Madame Ibn Ziaten a été taguée la phrase « On va t'avoir, on ONT ». Et là, je dis non. À un moment, ça fait même plus peur. Enfin, pour être effrayant, il faut être crédible. Si dans ce crime, le tueur avait dit au téléphone « Sidney, tu croives que je suis où, dans le salon ou ta chambre ?», la petite aurait répondu « Je t'ai reconnu, Stevie, t'es le plus con du bahut. Si t'as un couteau, je suis peinarde, à tous les coups, tu vas m'attaquer avec le manche et te planquer toi-même. » Pire, autre tag, c'est bientôt à toi, c'est CES. Et bien sûr, pas d'accent circonflexe sur le haut de bientôt. Mais vous faites ça sur le pavillon de Bernard Pivot, il pète un infarctus. C'est d'autant plus dommage que l'antisémitisme chez nous a souvent été porté par des esprits brillants. Nos plus grands écrivains, parfois, on disait « Ok, c'est une ordure, mais purée, quel style !» Et là, c'est récupéré par les plus nuls. Mais ce sont des décennies de haine qui tombent à l'eau. Déjà taguer la maison d'une femme de 60 ans seule sur l'échelle du courage, c'est entre-attaquer un niche avec un bulldozer et crier à Teddy Riner d'aller se faire foutre, mais quand on est dans l'Allier et Teddy Riner à Jakarta, alors si en plus le style est nul, mais on a affaire à des sous-nazis en 42, la Gestapo les aurait mis au nettoyage des chiottes. Reste que lire ça en 2019, même mal écrit, ça fait mal parce que je vais citer les Kids United, ça a baissé le niveau de la radio publique. On écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Or, si le message pour demain c'est Vive Mera, pitié, quoi, il vaut mieux qu'on arrête là. Elle arrive ou pas, cette fin du monde, parce que...
Merci, Dominique Bastiaud. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Rando à Demis Roussos, en tout cas, le mérite d'avoir écrit cette chanson avant les Kids United. Zombie Child, Bertrand Bonello, ce film vous est venu d'un voyage, enfin, vous aviez un carnet de notes, vous avez raconté, avoir noté ça en disant qu'un jour, ça pourrait me servir. Ça vous arrive souvent, ça?
Oui, je note des choses. Alors parfois, comme je les note de manière un peu elliptique, 10 ans plus tard, je me dis mais pourquoi j'ai noté ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais voilà, c'est vrai qu'on est. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on va avoir une idée pour faire un film et que cette idée sera suffisamment forte pour durer 2-3 ans? C'est
assez mystérieux. Et qu'est-ce qui fait que vous ayez ce besoin de vous appuyer sur du concret pour aller dans ce qu'il y a de plus magique, qu'est le cinéma, où tout est permis et tout est possible et l'imaginaire est le plus fort?
Ben, je pense que justement parce que tout est permis, c'est pas mal aussi d'être attaché à des choses, à des détails qui sont extrêmement, extrêmement précis. Je pense que plus on veut de la liberté, et plus il faut de la rigueur.
Ouais. Et du peu de budget naît la contrainte de devoir trouver des solutions, parce que c'est un film léger entre guillemets.
Oui, mais ça c'était volontaire. Hein. Mmh. C'était quand je disais tout à l'heure faire aller ailleurs et faire différemment. Le faire différemment, c'était aussi aller vite. La première chose que j'ai écrite, par exemple, c'est le plan de travail. Après, j'ai écrit le scénario. Ça donne aussi une.
Ça se fait pas comme ça normalement.
Non, ça se fait pas comme ça. Non, j'avais envie de faire différemment.
C'est nouvelle vague.
C'est assez nouvelle vague en effet. Ouais. Mais c'est aussi pour
c'est Godard,
retrouver
crois, hein,
de la
qui
légèreté.
Comme ça, ouais.
Godard, Romer, ils passaient beaucoup par le plan de travail.
Ouais.
Oui, de la légèreté, de la fluidité, de la liberté aussi. C'est un film sur la liberté, donc il faut que moi-même je me sente libre.
Et il fallait donc que vous partiez de cette histoire vraie en Haïti, que vous ayez le regard vrai de votre fille sur le dialogue des adolescentes, que vous fassiez cette enquête vraie sur cette maison de l'éducation. Enfin, vous vouliez qu'il soit...
Oui, le film est traversé par beaucoup de mélanges. Hein, le côté, il y a un petit peu de genre, il y a un petit peu de documentaire, il y a un petit peu d'anthropologie.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement le côté zombie, ça peut paraître tellement bidon, tellement faux, tellement.
Ah oui, je sais, mais de dire par exemple, je vais faire une histoire de zombie, mais qui est vrai. Il y a un côté presque qui ne fonctionne pas. Et après c'est mon travail à moi de le faire fonctionner pour le spectateur. Mais je pense que plus je m'appuie sur des détails vrais, plus je m'autorise à quitter aussi le réel pour aller vers la fantaisie, quelque part.
La fantaisie sur une histoire vraie et aussi low budget, c'est exactement vos points communs avec Daniel Morin. Là, c'est une histoire vraie.
Une histoire vraie, absolument. Ça a commencé comme une histoire triste, hein, puis ça s'est mis à ressembler au début d'un conte de fées, finalement, non, rien de tout ça. Tout va souvent très bien dans le petit village de Coufflance, dans l'Ariège. La nature y est généreuse, l'air est sain, la population joyeuse. Les vacanciers qui traversent la région sont toujours ravis de leur expérience et nombreux sont ceux qui gardent dans un coin de leur tête l'Ariège comme possible destination pour écouler une retraite heureuse. Mais tout bonheur a ses limites. Au début de semaine, un spectacle rarissime est venu gâcher la sérénité légendaire des villageois de Coufflance. Le regard bas, la démarche lourde, un jeune ourson traversait le village. Jamais on ne voit d'ours en plein village, encore moins un ourson, se disent tout perplexes les habitants médusés par l'apparition du jeune plantigrade. Les explications vont bon train. Mais ça, c'est la démission de Vauquier qui l'a mis dans cet état, le petit ours. C'est bien connu, les ours sont de droite. Et bien souvent, ils appartiennent au parti des Républicains. Vauquier qui s'en va, c'est une perte de repère. Ajoutez ça, la désertion de Valérie Pécresse, plus la possibilité de voir arriver à la tête du parti Christian Jacob. Il y a de quoi déprimer quand on est militant. Non, il faudrait, pour redonner le moral aux ours, un leader qui parle comme eux, qui comprenne vraiment. Un gars comme Jean Lassalle, lui, il parle l'ours couramment. Le lendemain, le député des Pyrénées était à Coufflance pour s'exprimer devant la population des ours.
Cher Ritaver, nounous, Coufflance, est compris. T'as le miante de peuple, c'était le miant. C'est moi. Avec moi, la promesse de vivre dans le monde, vivre ensemble, bien. Oh, chers états de moi, je me tiens avec ce parti, flatté.
Coufflance, c'est moi.
Mais pourquoi s'arrêter là? Il songe une star, Yannick Jadot. Le prochain, je ne sais pas, je serai présent. Deux ans présidentiel, c'est que je suis jury candidat. Sur la France, somme la France, douce, et souche.
C'est lui.
Applaudi comme rarement, Jean Lassalle se sentait pousser des ailes et le petit ours
Celui qui était perdu avait retrouvé le sourire. L'espoir était revenu dans la région. Les ours et la population vivaient main dans la main. On assistait déjà aux premières unions mixtes. Mais c'était trop beau. Le représentant régional du Rassemblement national n'entendait pas d'une bonne oreille ce rapprochement entre sa population et les migrants de la forêt. Il dénonçait une alliance contre nature et la présence d'une population sans papier aux autorités qui intervinrent aussitôt et renvoyèrent l'ourson auprès de ses arbres. Jean Lassalle retourna à l'Assemblée nationale, traîné seul sur son banc, le regard triste et le regret au bord du cœur. Regret de n'avoir pas eu la chance, puis l'opportunité d'être celui qui avait réussi à faire vivre ensemble les hommes et les ours. C'est pour placer les ours. Remplacer les ours par les migrants. Malheureusement, l'histoire reste la même. À demain. Ouais.
Merci, Daniel Mont.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Des histoires de zombies, mais une histoire vraie, surtout, qui commence en Haïti en 1962, Zombie Child, avec cette musique signée Bertrand Bonello. Vous l'avez compris, la musique est très présente, musique qu'il a composée, musique qu'il est également allé chercher, soit dans la playlist de Anna,
tout à fait.
Votre fille, que nous saluons au passage. Elle est créditée d'ailleurs comme directrice artistique dans le film ou pas?
Elle est au remerciement, faut pas trop lui en donner tout de suite, parce qu'après,
après ça demande à être payé.
Ben exactement.
Oh là 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 là, on parlait pas. Vous disiez tout à l'heure que ce film était bien ancré dans une réalité, et pourtant on parle des esprits et on va soit vers soit très très haut dans le ciel, soit très très bas dans la terre avec l'au-delà et les morts. Mais ce projet est venu vous soulager d'un autre projet de 4 fois 4 films. Enfin,
4 fois 1 heure, 1 fois 4 heures. Enfin, quelque chose dont j'avais pas encore compris exactement comment le faire.
Ah, et vous allez être obligé de comprendre pour nous l'expliquer, en tout cas.
Oula, alors, il est vachement compliqué. Ce serait, à partir de l'argument de La Bête dans la Jungle de Henry James, ce serait l'histoire d'une femme qui, à 4 périodes différentes, qui ne cesse de mourir, hantée par un amour impossible et dans le désastre personnel épouse le désastre du siècle. Voilà pourquoi c'est pas facile à financer. Mmh.
Silence. Ça dépend si c'est avec Isabelle Huppert. ce genre, comment viennent les idées? C'est toujours délicat de demander à un créateur.
Non, mais c'est la question la plus mystérieuse du monde, hein. Non, je le dis sans blague, hein. C'est vrai que, d'abord, moi, je pense que c'est la plus belle chose au monde. Quand t'arrives une idée. Ouais. Non, quand t'arrives une idée. C'est-à-dire qu'on se sent dans une forme de plénitude, de trucs, on a l'impression de toucher le ciel. C'est vraiment, pourquoi, comment? Alors, il faut se mettre un petit peu en état de l'accueillir, ça, c'est vrai. Donc, ça peut passer par des grands moments de solitude, etc. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive et on a la certitude.
Pourquoi, je ne sais pas. Le paradoxe de votre métier, c'est de passer par ces moments de solitude dans la création, au moment d'équipe et de travail où ça foisonne, où ça fusionne, où on est nombreux sur un tournage, comme on peut l'imaginer.
Oui, qui sont les moments qu'on attend, hein. C'est-à-dire, c'est le moment où on va commencer à donner le film aux autres et à accueillir les autres. Là, je parle bien avant les spectateurs, accueillir l'équipe, comment on fait. Le comment fait, c'est la fabrication, parce qu'il y a un truc qui est très énorme dans le cinéma, le côté ça coûte beaucoup d'argent, le côté industriel, et en même temps il y a un côté très très bricolage, on est 20 gamins sur un plateau à se dire tiens on va bouger ça, on va faire ça, on va tricher, ça moi j'aime beaucoup ça.
Et le cours où vous ne trichez pas, alors ce cours d'histoire
de Patrick Boucheron,
qui voilà, c'est vous qui avez décidé du sujet?
Oui, moi j'avais juste dit voilà, ce serait formidable si tu parlais des deux courants de liberté au 19e. C'est tout ce que je lui avais dit. Il a préparé son cours, il a fait 3 prises de 15 minutes et après moi j'ai monté dedans. Mais c'est vrai que c'est la première chose qu'on a tournée, c'était le lundi à 8h, premier jour de tournage, et c'était extraordinaire de voir à quel point il racontait. Non pas le film, mais enfin, à quel point il éclairait le film.
Oui, c'est ça. Vous avez besoin de ce moment, à la fois pour expliquer qu'on était dans un bahut, et à la fois pour apporter un crédit historique.
Oui, et surtout, je me suis dit, voilà, c'est un film qui coûte pas très cher, qui est sous l'emprise de la liberté. Donc j'avais envie de donner la parole, d'avoir une prise de parole qui n'était pas la mienne, mais celle de quelqu'un. Et il l'a vraiment prise. Hein,
oui, mais avec un prof, on est dans la pédagogie, dans la transmission. Ça veut dire que vous aussi, vous voulez que l'on apprenne quelque chose du film, vous voulez transmettre aussi quelque chose.
C'est la transmission, c'est un des trucs qui m'obsède le plus. Oui, je parle pas juste du père-fille, ouais. Mais la transmission d'une manière générale, je suis vraiment obsédé avec ça. Donc en effet, si quelque chose reste au spectateur au-delà du plaisir de voir les histoires adolescentes et machin, mais même sur des questionnements, on n'est pas là pour donner des réponses, hein, mais ne serait-ce que poser des questions, c'est pas mal.
Mais déjà cette séquence, elle interroge puisqu'on voit cet enseignant qui prend la parole et on voit tout un jeu de caméra qui balaye la salle à plusieurs reprises et qui nous montre un peu l'étendue de l'auditoire qui est là, et forcément on s'arrête sur la comédienne qui est d'origine haïtienne, en tout cas dans l'histoire du film, cette descendante, et on se pose la question.
La seule d'ailleurs noire
la
de toute
seule
tout
la
gueule, en plan blanche. Large, on la repère très vite.
Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc on s'interroge et on essaie de faire ce lien tout de suite, c'est ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'on se demande, comme je sais que rien n'est gratuit chez vous, on se demande tout d'un coup dans quelle mesure ce cours un peu magistral donné par Patrick Boucheron va venir éclairer ce qui suit, et on commence déjà à semer pas mal de graines pour la suite du film.
Oui, parce qu'en fait, on a cette première séquence en Haïti, puis après il arrive, et bon, on est dans une maison fondée par Napoléon, hein, il dit, ok, ben, la révolution, on la connaît, la France, c'est la révolution, la révolution, c'est la France, mais est-ce que la France a toujours été à la hauteur? Et voilà, c'est sur notre héritage, l'héritage de notre histoire, bon, la gamine, c'est une petite fille de zombie, donc elle ne sait pas trop quoi faire de son héritage. Le peuple haïtien, il sait à peu près quoi en faire parce qu'il la connaît, son histoire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de notre histoire? Ce sont des questions qui sont perpétuelles. Et les Boucherons le dit très bien.
Il y a également donc Louise Labeck, Vislanda Louis-Math, Adilé David, Ninon François et Mathilde Rioul, les comédiennes sous la direction de Bertrand Bonello pour ce Zombichal qui sort demain au cinéma. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Alors déjà, désolé pour Bertrand Bonello qui, on l'a appris ce matin, a débuté en rencontrant Spielberg et Kubrick et se retrouve ce matin entre Jérémy Creteville et Albert Algou. C'est un choix de carrière, j'espère pas.
Ça s'appelle une chute. Ça s'appelle une chute.
Alors désolé aussi pour Carrefour, cette belle marque, fleuron du capitalisme français qui a été souillé par Bertrand Bonello au profit de Monoprix. Oui. J'en profite pour rappeler à la direction de Carrefour que j'aime les chèques, les espèces, les rillettes. Mon adresse, Radio France 116, avenue du Président Kennedy. Désolé enfin pour Carole Laure qui m'a fait passer discrètement le message suivant. Je lis, Nagui, arrête avec tes SMS graveleux et tes photos cheloues qu'on appelle dick pics. Voilà, le message est passé. Si vous voulez me remercier, Carole, j'accepte les chèques, les espèces et les rillettes. Daniel Morin, 116, avenue du Président.
Et les bons d'achat chez Carrefour. Prêt à tout. Merci Bertrand Bonello. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Évidemment, on vous souhaite le succès et que le film rencontre son public. Mais dans le processus de création dans lequel vous êtes.
Ben là, je vais commencer à affronter un truc qui est le vide, hein. C'est le vertige du vide. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Donc, c'est de retrouver de la plénitude d'une idée.
Très bien, Zombichal, demain au cinéma. Demain, nous recevrons Léa Drucker à ce micro pour la bande originale.